Et cette semaine, dans nos conversations avec Daniel Haber, on revient sur les différentes pressions diplomatiques auxquelles Israël doit faire face ces derniers jours. Daniel Haber est, comme chaque semaine, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka comme tous les lundis matins. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé la semaine passée avec ces grandes déclarations et cette forte pression diplomatique qu'a posé l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Canada sur Israël. Des pressions diplomatiques qui atteignent des sommets jamais atteints, accompagnées de menaces même de la part de la France. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, Daniel Haber?
Ah oui, des menaces brandies par la France et d'autres pays européens qui concernent l'accord d'association qui est extrêmement importante entre Israël et l'Union européenne et qui est une menace majeure. Alors on dit pas qu'on va tout rompre, on va regarder, mais enfin bon. Alors pourquoi cette menace? Très franchement, on s'interroge parce que finalement tous ces pays occidentaux subissent les mêmes menaces qu'Israël, des mêmes sources. Il y a un rapport qui vient de sortir en France sur la menace des frères musulmans. Donc c'est le Hamas, ça fait partie des frères musulmans. On a les mêmes ennemis, la même menace. Et malgré ça, ces pays occidentaux, qui sont tous au fond les grands pays occidentaux en dehors des États-Unis, font cette pression. Au fond exceptionnel. Alors pourquoi? Je vois une première réponse, c'est que la guerre de communication qui a été menée contre Israël à partir du 8 octobre par le mouvement islamiste mondial, c'est-à-dire les frères musulmans accompagnés des chiites menés par l'Iran et d'autres sources encore, a été d'une très grande intensité et on peut dire qu'elle a été conçue, j'en ai déjà parlé avec vous, conçue avec une intelligence maléfique, elle a été exécutée, on peut dire, avec efficacité. Et on peut même d'ailleurs soupçonner que cette efficacité vient de l'appui d'une grande puissance qui est très expérimentée dans la désinformation, qui sont la Russie. Et si la Russie le fait, c'est parce que l'Europe se dresse contre la Russie aujourd'hui, presque plus que Poutine. Et donc un moyen pour les Russes de faire payer aux Européens leur rôle dans la défense de l'Ukraine, c'est d'accompagner la désinformation islamiste, parce qu'ils ont le même but, c'est de créer de la division, de créer de la colère, de créer du chaos en Occident, et je dois dire que malheureusement qu'ils y arrivent assez bien. Donc le résultat aujourd'hui, c'est que les opinions publiques occidentales, surtout européennes, ont une image très négative d'Israël à propos de la guerre de Gaza et par l'exploitation qui a été faite par la désinformation islamiste qui donne une image de la guerre de Gaza tout à fait épouvantable avec au fond deux mots qui reviennent sans cesse, génocide et famine, et on a beau démontrer que la réalité est très éloignée de ces accusations, l'image reste s'impose et s'impose même aux gens ordinaires, aux gens, moi je le vois tous les jours, des gens qui sont amicaux et qui sont pas hostiles à Israël, qui sont pas antisémites, mais qui sont quand même prisonniers de la réussite de cette campagne de désinformation. Alors, c'est ça qui fait réfléchir et qui se dit peut-être que, ça c'est ma proposition, que les gouvernements européens, ainsi que les Britanniques et les Canadiens, pensent intelligent, d'une part de se regrouper pour se distancer. Distancer d'abord des Américains. Après tout, les Américains restent le soutien des Israéliens et donc, comme les Américains, Trump a beaucoup manœuvré dans des guerres commerciales extrêmement menaçantes contre le Canada en particulier et contre les Européens. C'est une manière, au fond, de punir les Américains et donc finalement Israël est une sorte de victime collatérale de ce conflit. Mais surtout, les Européens veulent se distancer d'Israël. Ils veulent se distancer d'Israël parce qu'ils voient bien que le monde musulman, le milliard et demi ou plus du monde, a fait de la cause palestinienne son sujet central, son sujet d'unité. Il n'y en a pas d'autres. Et cette cause est devenue, comme on dit, sacrée. Et au-delà même du monde musulman, tout ce qu'on appelle le sud global, c'est-à-dire la majorité des pays du monde, se sont forgés une unité autour de ce d'un ressentiment anti-occidental, fondé sur le passé colonial de l'Occident, et donc ils font de l'existence d'Israël une sorte de fait colonial, et intègrent donc Israël dans l'ensemble européen. Et donc les Européens veulent se distancer de ça, dire non, non, nous on est différents des Israéliens, n'ayez pas de ressentiment contre nous, nous on a fait notre devoir, et donc c'est une sorte de lâcheté hein, de l'Occident pour ne pas être prisonnier de ce grand combat entre l'islam et l'islamisme et l'Occident. Dernier élément aussi, il y a toujours cette accusation qui est lancée par ce même Sud global aux Occidentaux, les deux poids, deux mesures. Hein, vous nous dites, la pauvre Ukraine est accablée de missiles et de drones, eh bien les Gazaouis sont comme les pauvres Ukrainiens. Ça n'a rien à voir, c'est pas du... Israël n'a agressé personne, au contraire, s'est fait agresser, mais on mélange les deux. Et donc voilà ce qui motive. Alors c'est extrêmement ridicule, c'est une faiblesse intellectuelle, c'est munichois hein, de la part des Européens, mais ils le font parce qu'au fond, ils ont peur.
Oui, alors justement, Daniel Habert, que peut faire Israël face à cela? Et l'État hébreu va-t-il résister à cette pression?
Écoutez, c'est la question qu'Israël se pose. Elle a au fond deux façons d'appréhender la situation actuelle. La première, c'est de dire, j'ai réfléchi et je sais que comme ma sécurité est mon premier devoir et mon premier horizon, je ne peux pas faire autrement que de faire ce que je fais. C'est-à-dire, il faut absolument que je sorte le Hamas du gouvernement de Gaza. Rien ne sera possible tant que le Hamas restera. Donc j'ai une stratégie qui est rationnelle, qui est la bonne, et je vais l'expliquer. L'autre façon de raisonner pour Israël, c'est de dire bon, j'ai beau expliquer, je me heurte à un mur, évidemment volontaire de pas comprendre, et donc peut-être qu'Israël doit se dire qu'est-ce qui est plus grave pour moi, de laisser le Hamas, évidemment très affaibli, quand même à Gaza avec le risque de se reconstituer, de redevenir une menace, ou d'accepter une confrontation qui peut aller très loin avec l'Europe et qui évidemment pose des problèmes géopolitiques majeurs. Voilà, c'est cette. Mais on voit bien que pour Israël aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'idée que laisser le Hamas réclame une victoire, même s'il est exsangue, mais qu'il reste à Gaza, il va célébrer cette victoire, et ça va envoyer des messages extrêmement négatifs, d'abord vers les ennemis d'Israël, qui se disent, ben voilà, même si Israël est plus fort, on peut quand même gagner. Et donc c'est dangereux, parce que ça va susciter des vocations. Et puis même par rapport à ce qu'on pourrait appeler les amis entre guillemets d'Israël, c'est-à-dire les États arabes qui ont déjà signé la paix ou qui pourraient le faire comme l'Arabie saoudite, c'est montrer qu'on est faible, parce que si on peut pas, après 19 mois de guerre, se débarrasser d'un ennemi quand même qui est quand même pas très important, le Hamas sur le plan militaire, on va pas associer notre avenir à une puissance qui est pas capable de faire ça. Vous voyez, c'est le signal est très dangereux, quoi. Voilà. Donc c'est dans ce dilemme que se débat Israël, qui divise évidemment, on le sait, les Israéliens eux-mêmes.
Alors, pour terminer, Daniel Habert, en une petite minute, que va-t-il se passer? Quelles sont les probabilités?
Écoutez, le seul qui peut faire changer les choses aujourd'hui, qui peut prendre des décisions à la place d'Israël, c'est Trump. C'est Trump qui va dire, bon, je suis en échec en Ukraine parce que Poutine me balade et que je peux rien faire sauf faire la guerre et je suis pas prêt. Donc les seuls sur qui je peux essayer de tenter une victoire, c'est les Israéliens. Et donc je vais faire une petite pression plus que inamicale sur Israël. On sent déjà que ça se fait un petit peu sentir, et donc voilà, c'est Trump. Alors la seule chose que pourrait faire Israël face à une pression de Trump, c'est de négocier des contreparties. C'est-à-dire, ok, d'accord, on va vous accepter, mais vous voyez, c'est dramatique pour nous, ça va laisser le Hamas victorieux, c'est une très mauvaise image pour vous comme pour vous. Qu'est-ce que vous compensez? Et donc là, c'est tout ce que fait Trump avec les États arabes, qui serait bon, un traité avec l'Arabie Saoudite, et surtout des garanties très fortes apportées par les Américains, à la fois à Israël et aux Arabes, une garantie un peu une sorte d'OTAN. Du Moyen-Orient, où les Américains diraient la sécurité de tout le Moyen-Orient, israélo-arabe, m'importe au plus haut point, c'est stratégique pour moi et je suis prêt à m'engager. Mais on voit bien que le débat aujourd'hui, il est chez Trump. Est-ce que j'ai pas envie de m'engager dans des conflits, mais en même temps, le Moyen-Orient, c'est quand même tout à fait stratégique et central dans mon redéploiement vers l'Asie, hein, parce que le Moyen-Orient, c'est un morceau de l'Asie, et si la stratégie globale des Américains depuis Obama, c'est le redéploiement vers l'Asie, le Moyen-Orient en fait partie, donc ça justifierait un engagement américain. Vous voyez, on en est là, et donc on est en train d'arriver vers des choses extrêmement stratégiques pour les prochaines semaines.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine, au revoir.